les podcasts du Rond-Point. Amine Raled invite à sa table des artistes emblématiques du spectacle vivant. Scénographes, metteurs en scène, comédiens et d'autres évoquent les éléments essentiels de leur parcours et de leur univers. Pour ce nouvel épisode, rencontre avec Jacques Bonafé, comédien au théâtre et au cinéma, mais également grand lecteur, défricheur des écritures contemporaines sous toutes leurs formes.
Avec moi, pour ne jamais entrer en poésie comme on entre en religion, avec moi, Curton de la Porie, petite sœur de Charité du Pataraf, Stropia de l'Harmonie, pied beau de la grandiloquence.
Bonjour Jacques Bonafé.
Bonjour.
Je ne sais pas si vous connaissez la charte internationale de l'interview. Je crois qu'il était rédigé en l'an 1 de la parole, qui voudrait qu'on commence toujours par le premier jour, le premier événement, ou du moins le premier souvenir, une scène inaugurale, je dirais.
Ah ouais.
Mais toujours avec la même question, comment tout ça a commencé? Mais avec vous, Jacques, cela risque de coincer, ou ça rend le procédé un peu inopérant. Car vous concernant, le début n'est pas une date, mais un coin du pays, un endroit du monde, je dirais.
Ouais.
Votre ville natale, Douai, vous a donné au théâtre. Est-ce qu'on peut dire ça?
Ah oui, tout à fait. Je considère qu'il y a des modes de théâtralité différents, suivant les régions dans lesquelles on a poussé, et qu'il faut être sensible. Il faudrait même améliorer cette oreille, cette perception. Voilà. On a une raison de se montrer, de s'exhiber, qui est différente suivant les cultures, suivant les régions, suivant les lieux, j'imagine aussi, dans des temps. Et le besoin de sortir de soi, de montrer illusoirement, hein, illusoirement qui on est, de s'avubler de personnages et de rôles, probablement dans le Nord, ça avait une connotation, une signification particulière, quand j'étais gosse.
Ça s'exprimait comment?
Alors, s'il faut, comme ça, prendre un souvenir d'enfance, comme la première fois, vous savez, quand on choisit une première fois, on a quand même pas mal de choix. On peut à chaque fois retricoter. J'ai toujours dit que la première fois, c'était sans doute l'échec vécu à la communion de mon grand frère, quand j'étais monté sur la chaise pour dire « Que sont mes amis devenus ?» poème de Rutebeuf, et que j'avais, au bout de deux mots, j'étais tombé en larmes. Je devais, dans ma vie, prendre une revanche sur ce premier échec en scène. Bon, ça, c'est pas un faux souvenir. Le premier souvenir que j'ai, comme ça, de la chose effarante du théâtre, j'ai dit « Ils sont fous !» c'est voir mes frères qui étaient au club théâtre, la scène était vide, elle change d'aspect parce que les lumières basculent, et peut-être que quand on est gosse, c'est encore plus fort, des lumières de théâtre font un lieu absolument incroyable tout d'un coup. On éteint, on met le noir, et puis on allume des lumières de théâtre qui ne devaient pas être grand-chose comme projecteur d'un club théâtre. Et je vois rentrer mon frère, François, mais en robe, en train de balayer, il faisait la femme de ménage. Et alors, je crois que j'ai dû être saisi d'une honte absolue en disant mais c'est pas une fille, enfin c'est terrible. Et en même temps, ça m'a mordu immédiatement en disant aïe aïe aïe, ça va me rester. C'est-à-dire que le défi que j'ai, c'est de un jour faire pareil que lui, parce que j'ai regardé autour de moi, les copains, les gens rigolaient beaucoup de l'accoutrement, etc. Cette idée d'être costumé par ce fait-là de sortir, enfin brutalement, mais aussi de manière vivifiante, vers vraiment de l'existence, vers vraiment une santé incroyable. Quoi. Bon, voilà, cette première sentiment d'avoir vu mon frère, puis après mes frères sur scène, et me dire, mais si je grandis comme eux, enfin, j'ai peut-être une chance un jour de me faire voir comme ça.
Vous êtes cueilli par le spectacle dans un environnement comme ça qui définit pas un peu des formes assez conventionnelles du spectacle. Il y avait pas mal de théâtre de rue, des choses un peu très différentes, du chant, des choses qui ne sont pas tout à fait un peu dans les canons.
Oui, ça c'est
si
vrai.
Si on peut dire.
Pourquoi ma ville de naissance, Douai, était marquée par cet amour du théâtre, par ce goût du plein air, alors qu'on pense que dans le Nord, il fait froid, par énormément de circonstances de rue, par des dates historiques qui ont fait aussi qu'il y a eu des petits, très tôt, installés, une multiplication de scènes de théâtre, à des occasions historiques. Il y avait une fête de la ville en juillet avec le géant Gaillan qu'on sortait dans les rues. Et en même temps, il y avait un animateur extraordinaire qui s'appelle Roland Poquet qui avait créé une troupe dans l'idée de l'époque, de Copeau, de Villard, de ceux qui succédèrent à ça, une ardente troupe de création de théâtre et qui faisait un spectacle de plein air pendant 3-4 jours d'amateurs qui étaient extrêmement brillants, extrêmement... Alors ça, cette responsabilité du théâtre, effectivement, un peu attirante, un peu bruyante, un peu... nous permet de comprendre logiquement quelque chose.
Il y a une origine assez forte qui fait que vous définissez un peu, vous appelez ça la région le Nord, parce que oui. Là maintenant on l'appelle les Hauts-de-France. Hein, c'est toute une sémantique. Ça recouvre quoi le Nord, quand on dit le Nord? Il y a une terre natale, un coin où se raccrocher pour se ressourcer. Peut-être pour vous ça va au-delà de ça en fait, c'est plus un horizon en fait.
Mais ça doit être pas mal de choses différentes suivant la génération à qui on appartient, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui aurait 20 ou 30 ans dans le Nord, c'est « Ah ouais, oui, mais nous on est spécialistes de faire rigoler partout !» Après les ch'tis, il y a eu l'espèce d'image incontournable du ch'timi qui fait rigoler dans une émission, un talk show, parler plus con que lui-même, j'amusais à dire des choses énormes et puis et réconcilier tout le monde d'une certaine manière. Bon. Le Nord, c'était une terre industrielle. Quand je revenais de vacances, mes parents étaient professeurs, on partait dans une région de France en voiture, on changeait, on allait un coup en Auvergne, un coup en Alsace, un coup voir les châteaux de la Loire, etc. Puis quand on revenait, c'était une vraie punition. Ce Nord était impressionnant, c'était dans le noir et blanc, les photographes les plus couverts, les plus tchèques, les plus noirs.
Les Bellatars.
Oui, aussi. Voilà. Mais vivre ça au retour du soleil, il y avait quelques routes nationales, la ligne droite des Nagnétards jusqu'à Douai, au château noir. Hein. Château d'à côté, il y a vous, les fumées dans le ciel. Parce que ça donnait toutes ces aciéries, toutes ces... Mais en même temps, c'était de la fierté, parce que chez toi, du travail, quoi. Ça, c'était... les gens, il y avait une contradiction, mais qui ne rendait pas que triste, quoi. Ça les rendait les gens... c'est incroyable ce qui nous arrive, quoi. Et peut-être cette méthode-là reste bonne, c'est-à-dire... pointer du doigt l'endroit où on serait forcément malheureux parce que le ciel est bas et que la terre est condamnée. Enfin, il y a une espèce de malédiction de l'industrie du travail. Et en même temps, de voir qu'à cet endroit-là, les gens ont des recours incroyables en eux-mêmes pour se dire, il faut bien tenir le coup. Il faut, et beaucoup de gens l'ont dit, bon, cette manière... un peu aventurière, au fond d'eux-mêmes des gens de s'adapter aux intempéries et aux douleurs, elle faisait un or assez formidable, quoi, dont il ressort effectivement les clowns d'aujourd'hui à la télé, quoi, c'est-à-dire prêts à toute épreuve. On a souvent dit, alors c'est ça dans ma tête d'enfant, c'était le Nord, le travail, quoi, un terre d'accueil et de travail, que j'ai écrit à l'entrée de l'autoroute. Ça me fait rigoler parce qu'on a toujours dit, nous, pendant des années, après les années, je dirais, 80, quoi, 80 sur un peu avant, mais chez Tau, terre d'accueil et de chômage, quoi. Il a fallu s'habituer à cet autre monde, quoi, celui où l'industrie ne nourrissait plus ses enfants, là.
Vous défendez cet héritage, c'est une vieille lignée comme ça d'un rapport à la parole, à la langue.
Ah oui.
Vous le faites remonter au fabliau du Moyen-Âge.
Oui.
Il y a des subsistances de cet héritage-là. Et à celui du conte aussi,
oui.
Qui continue à interpeller comme ça à vous-même. Vous avez recours à ces subsistances comme ça pour essayer de les faire vivre et de les faire perdurer.
On peut dire à cette culture, en considérant qu'il y avait... au départ, là, dans l'énergie que moi-même j'incarne, quand je m'amuse avec l'accent, comme je viens de le faire il y a quelques secondes, etc., il y a un côté immédiat, aculturel, quoi. Ah, j'ai pareil, ça jaillit, quoi. Alors, peu importe si on est savant ou bête, ou peu importe, bon, il y a un premier jaillissement comme ça, qui est l'énergie de la parole qui ne sera jamais perdue, jusqu'à... l'affirmation d'un érudit jusqu'à, effectivement, la parole d'un conteur qui peut avoir énormément de science, il n'oubliera pas cette attache que voilà, on appelle populaire. Voilà, bon. Il y a une espèce de rugissement bête avec lequel on est, on est. Et il y a effectivement besoin de remonter tout ça, parce que c'est rudement con, quoi. Je pourrais dire, on va pas en rester au côté Patrick Sébastien, même si c'est très rigolo de tourner les serviettes et puis de dire des grosses vannes. Non. Il me fallait chercher dans les histoires qu'il y avait là, où je retrouvais ma forme d'authenticité, c'est-à-dire ma parole première, sans trop réfléchir, tout ça. Il fallait trouver des auteurs qui essayaient de garder cela, mais en disant autre chose. Donc j'en ai trouvé plusieurs, et à chaque fois, je me suis rendu compte que c'était des acrobates de la langue, et non pas de l'esprit. Ça, c'est très difficile à établir bien clairement en France, parce que rien ne vaut l'esprit. Hein. C'est l'esprit qui est au-dessus de tout. Mais là, c'est d'abord des gens qui font avancer la langue, et ensuite l'esprit, et non pas des gens qui auraient l'esprit, c'est-à-dire des grandes idées, et qui trouvent une langue appropriée pour exprimer ces choses. Je suis très amoureux de ces gens-là, dont symboliquement, on a le foyer à Arras, qui sont les trouvères, les trouvères de la ville d'Arras, et Adam de la Halle, dont Jacques d'Arras, poète contemporain, m'a transmis la connaissance, et on a souvent discuté, il m'a fait connaître des textes magnifiques. Il y a eu à l'époque, hein, c'était en 1450, une espèce de renaissance flamande, hein, qui correspond tout à fait aux couleurs particulières là-bas. On ne pourrait pas tout à fait parler de renaissance, parce que le monde ne changeait pas, il s'enrichissait. C'était un monde de commerce et d'échange entre la Hollande et Arras, pour des choses très précieuses, et rapportant pas mal de pognon, comme le drap, le tissu, etc. Dans ces lieux, dans cette grande ville, c'était la ville principale, il se passait beaucoup de choses. C'est-à-dire, il y a beaucoup de fortune, il y a beaucoup d'argent, c'est pas du tout. Mais certes, il y a des princes qui ont protégé les meilleurs poètes, et les poètes étaient des pratiquants de la littérature orale. Voilà, c'est tout. Ce qui nous reste d'eux, c'est des choses énormément écrites, qui sont la transition du latin au français, une libération formidable, quoi. En quelques années, on est toujours obligé d'écrire en latin, mais pourquoi n'écrit-on pas en français? Et alors, ce qui se déclenche avec les trouvères d'Arras, les jongleurs de la ville d'Arras, c'est une chose assez formidable. Et puis, partant de là, pardon de m'attarder, mais effectivement, la connaissance de tas d'autres qui gesticulent avec leur langue, j'oserais dire, qui font des exercices phénoménaux. Et donc, c'est arrivé naturellement à d'autres poètes, les plus dingos d'aujourd'hui étant en Belgique. Se faisant fort d'être meilleurs grammairiens que nous, français, s'amusant de toutes les obligations de la langue et de la syntaxe française, jouant aussi de leur dictionnaire fabuleux. Bon, c'est le cas de Jean-Pierre Verheyghen que j'ai eu plus qu'un plaisir, une vraie extase, une révélation à pratiquer, quoi. C'est-à-dire, une bascule dans l'incroyable des mots, mais dans leur possibilité. Le plus drôle, c'est le jeu de transmission. Voilà. Moi, je me suis retrouvé dans des circonstances où je disais des textes très compliqués de Jean-Pierre Verheyghen, et avec un public de rue, je me souviens, c'était du côté de Noyon, dans la Somme, qui était, cet après-midi-là, il y avait que des femmes africaines avec leurs enfants, dont une sur deux parlait vraiment français. Elles étaient ravies. Elles entendaient tout de la langue de Verheyghen. Même quand je disais Curton de la Porie, petite sœur de charité du Pataraf, Stropia de l'harmonie, Piébo de la grandiloquence, Janotiste fervent et amphibologue patenté, Homéotéleux tatutut, Cagon de l'abscon et Cagaron de l'énumération sans suite, Chieur de superlation, Moabite de l'à peu près, Officiant bègue et tordu de la question fourrée, Simplet du brouillage, Marotiste, Mariniste, Hystérologue, Rédemptoriste d'Acapo et bienheureux du contresens, avec moi, dans la langue.
Justement, on est en porteur bien avant la rencontre avec Verheyghen, on y reviendra. Vous étiez déjà jeune, porteur de, disons, de cet imaginaire. Et vous avancez dans votre parcours de comédien.
Oui.
Je vous parle un peu des temps premiers. Et quelque part, il y a des passages en France, des passages, disons, obligés pour le parcours de comédien à se former, au moins pour introduire l'institution. Où vous avez une anecdote comme ça sur laquelle vous revenez par rapport au conservatoire. Le contact avec, justement, ce monde qui forme et que peut-être quelque part il formate le devenir comédien. C'est quoi votre expérience à ce sujet?
J'aimerais répondre simplement en pensant à mine que dans les dernières réponses, je me suis étalé, je prononce trop. Réussir à dire une chose qui compte énormément, c'est la prise, par exemple, non pas au conservatoire, mais ça vient de là. Ça vient aussi de ce que j'ai appris de fondamental avec des gens comme le théâtre de la Salamandre. Donc, aujourd'hui, souvenir avec Jean-Pierre Vincent. Une façon de rester critique par rapport à ce qu'on fait soi-même. Alors que le théâtre, bah, c'est souvent, comment dire, allez, vas-y, trouve-toi beau, quoi. Ou alors l'inverse, hein, c'est une espèce de dialectique entre les deux. Ah, mais qu'est-ce que tu as? Tu es mauvais aujourd'hui, etc. Et on relate des expériences de quasi-torture du pédagogue vis-à-vis de... Vous voyez, ça y est, je suis parti sur une longue... Il ne faut pas que je fasse des longues réponses. La réponse courte que je voulais faire, elle est cette découverte ou confirmation que j'ai eue à un moment. Je me suis dit, quand je joue le vélo au théâtre, quand je joue le cycliste, en fait, je suis dans la tête du cycliste, ça c'est sûr. J'essaie de vivre toute l'étape des Landes avec lui, Liliane Fauger. Et en fait, je suis dans la tête du public aussi. C'est-à-dire, je dois être des deux côtés, et c'est ça qui particularise ma fonction d'acteur de théâtre, en dehors de la générosité nécessaire à mettre dans un rôle, c'est-à-dire l'offrir au public, vraiment le donner, se rappeler qu'on ne fait pas ça pour se trouver beau, mais vraiment le donner au public. Mais l'autre chose, c'était cette référence critique, de dire non, mais... Je suis le truc génial du théâtre. Je suis à la fois le coureur et je suis à la fois le mec qui voit passer le coureur. Je suis à la fois le public. Et je dois pouvoir donner ces deux images-là. Et ça, c'est très important. C'est le fondement de la raison du théâtre. C'est vous voyez ce qu'on voit et vous en dites quelque chose. Mais vous voyez comme moi ce qu'on est en train de voir là tous. Voilà. De ce qu'on appelle la distance, on connaît bien maintenant aujourd'hui. Voilà. La distance sanitaire du théâtre, c'est celle-là.
Dans votre travail globalement, mais surtout au théâtre, précisément dans les spectacles, vous faites aboutir vous-même.
Oui.
Je retiens un principe que j'ai souvent constaté, celui du déséquilibre. Il y a une forme d'instabilité, d'un monde un peu en friche. C'est un peu votre univers, si j'ose le résumer. Qu'est-ce qui anime, selon vous, cette recherche, un peu du déséquilibre? Pourquoi vous en faites un peu un principe de théâtre?
Il faut être honnête, hein. Il faut vraiment... Là, je ne peux pas mentir, même si personne ne me voit, mais parce que je suis flemmard. Alors, ma flemme à moi, c'est qu'effectivement, je cherche des stratégies, des trames qui me permettront de rester trop longtemps dans la répétition. Une des personnes que j'ai préférées au théâtre, c'est Alain Françon, mais c'est une de mes plus grandes tortures parce qu'il adore la longueur des répétitions. Surtout sur une reprise d'un beau spectacle. Il était reparti après 3 semaines de répétition, ça a été terrible. Mais un des premiers spectacles cultes que j'ai fabriqué, hein, avec Catherine Jacob, on l'a fait en quelques jours. On était soumis à une urgence et Atoun, il nous propose à théâtre ouvert un lieu en disant on pouvait faire un cabaret le soir. J'ai dit en une semaine, est-ce qu'on peut y arriver? Voilà. On a fait un spectacle simple, d'1 heure, 1 heure et quart, mais on l'a baladé pendant 2 ans. On l'a fabriqué en une semaine. Après, ça m'est resté. Alors là, donc il faut trouver des moyens de fabrique rapides. D'ailleurs, je dois avouer que je suis encore très enfiévré et très enchanté par les artistes qui arrivent à ça, c'est-à-dire les musiciens de l'improvisation, les musiciens du jazz, qui ont des clés incroyables, mystérieuses, des musiciens de toutes sortes aussi, parce qu'on pourrait partager ensemble la culture de musique du monde dite traditionnelle, etc. Et l'idée de l'apprentissage rapide participe à la création musicale. J'ai plusieurs fois trouvé des trames, en particulier celle du spectacle loupé. Je prenais ce que j'avais sur place. J'ai fait une première version d'un spectacle qui s'appelait Cafouillette et le défilé, où les effets ne sont pas partis, et il y avait des catastrophes en coulisses. Je les ai gardées et je les ai amplifiées. C'était l'histoire d'un spectacle qui plantait, quoi. On peut appeler ça le syndrome Elsa Popin. Les catastrophes dans les coulisses, et on laissait les rattraper sur scène, quoi. Et là, j'ai monté du coup la trame de celui-là. C'était la trame d'un ratage. C'était à chaque fois que j'annonçais la fanfare, elle ne rentrait pas en scène. Je faisais un spectacle avec une fanfare, mais on se poursuivait pendant tout le spectacle. Tout d'un coup, il passait en scène et moi, j'étais dans le fond du théâtre. Alors on avait des tas de circuits hors du théâtre pour réussir à passer derrière, devant, etc. Et plusieurs fois, Maintenant, il ne faudrait pas que j'en abuse, mais plusieurs fois, j'ai usé de cette corde-là. Après, je sais qu'artistiquement, elle doit être liée à mes origines. J'ai fait un beau film, un court-métrage que j'ai fait dans le Nord, il s'appelle Fiasco. C'est l'histoire d'une fête, mais alors complètement ratée. Et c'est drôlement émouvant. Ce qui est incroyable que, du coup, j'avais des paroles, tout le texte est venu, etc. J'ai eu peur, ça m'a fait peur. Je me suis dit, mais finalement, sur le ratage, j'ai plus de choses à raconter que sur la réussite. Ça m'a fait très peur, mais bon, c'est comme ça, c'est inscrit, c'est un peu dans mes gènes, c'est-à-dire qu'après le ratage, on le sait, après les matchs loupés, et les supporters de Lens en savent quelque chose, il faut garder la foi. Il n'y a que ça qui nous intéresse au théâtre, la foi. Il faut garder la foi, trouver des choses à dire, relancer, parler quand même, refaire le monde.
Oui, il y a un principe beckettien, en fait, c'est de rater encore et rater mieux.
Oui.
Toujours s'améliorer dans ses ratages.
Avec moi, oui, c'est ça. Oser tout dire, tout écrire, tout sembler réussir pour mieux finir par tout rater, tout échouer et en rire. C'est le début du manifeste cochon, oui.
Justement, là, vous nous faites une ouverture pour justement un domaine. Peut-être que vous êtes un des rares comédiens et metteurs en scène qui font avancer cette cause, ou du moins la laisser vivante sur des scènes de théâtre, c'est celle de la poésie. Qu'est-ce qu'elle vous permet à vous, personnellement, en fait, la poésie, ce penchant à la poésie, cette insistance à aller brasser de cette parole?
D'un côté, il y a cette immédiateté dont je parlais, là, à l'instant, faire immédiatement les choses, pas être différé, travailler quelquefois dans la rapidité, sentir encore l'effet de la commande, c'est-à-dire cette commande qu'il y a entre public et nous. Je suis en train de penser à deux choses différentes. Bien entendu, la poésie, ça nous appartient à tous, à même les gens qui tirent de grands yeux effarés en disant « ça m'est jamais arrivé, mais ça ne me concerne pas, je lis pas de poésie ». Tout à chacun était dans une émotion bizarre pour avoir entendu quelque chose, et mieux encore pour l'avoir lu. Parce que je crois qu'il y a quand même énormément de cette transaction dans toute poésie. C'est le passage entre ce qui vient d'être dit et ce qui pourrait rester imprimé, ou dans les mémoires, ou sur le papier. Mais ça a une forme comme ça de longueur dans la transmission, dans le... à l'instant où ça dure, à l'instant où c'est dit, ça dure énormément. Hein. C'est peut-être ça qui définit la parole poétique. La deuxième chose étant cet aspect constamment changeant, même quand on dit la même chose. On la répète et elle se redit. On l'a tous ressenti par rapport à un poème de Verlaine. Je me le suis redit l'autre jour et il a plus le même sens. Quand on se le repasse dans la tête, les mots changent. Voilà, de l'importance de la poésie, c'est de sentir cet instant de la prise des mots, on va appeler ça.
Il y a l'instantané de la parole poétique, évidemment, parce que c'est son domaine un peu réservé. Et je pense au travail, aux multiples mêmes travaux que vous avez accomplis autour des textes, autour de Verhaeghen, Jacques Darras ou Jules Mousseron. Autant que comédien, quand même, on voit toujours qu'il y a une sorte de... Vous tentez toujours de déplacer le spectacle théâtral, en fait, de le mettre à un autre endroit que celui que la répartie dramatique. Ça donne à entendre, premièrement, une langue différente, une exigence différente de la parole, mais aussi il y a un rapport à la condition de vie, aussi, dans la poésie, la condition de vie des gens, d'autres mots qui désignent la condition humaine.
Si on parle des poètes eux-mêmes, on est toujours ému, fasciné par la manière dont ça implique toute leur vie. Alors, tout ça, ça fait partie du code. On se dit, là, on ne peut pas prétendre poète si on n'est pas entièrement touché par ça. Y a pas mal d'autres choses qu'on peut prétendre faire, je crois, dans des arts qui nous sont familiers, et sans que cela engage à ce point-là la vie. Hein, ce qui n'empêche pas qu'il y a tout ce qu'il faut, comme on va dire, poète d'artifice, faux poète. Mais il y a quand même quelque chose qui implique particulièrement la personne. Probablement, comment dire, la poésie, ça, ça commence avec l'enfance, un poème appris par cœur, le plaisir de se le redire dans la tête et de trouver, d'y trouver quelques consolations, quelques forces particulières qui ne font pas partie du lot habituel, de l'attirail habituel qu'on vous propose pour devenir fort, de manger des cornflakes le matin ou pour devenir fort, faire du sport l'après-midi. Pour devenir fort, récitez-vous de la poésie, ça ne marche pas. Et pourtant, il y a une force infuse dans ce premier choc, la force d'entendre des choses établies, construites avec les mots qui redites, tiennent encore, et lâche pas et change, tout en restant les mêmes, etc. Donc toujours ce même truc, la force d'une chose bien écrite. J'ai souvent sauté d'emblée vers des poètes qui avaient une cadence, un rythme, parce que je suis acteur, parce que bon, il m'aidait à décoller quelque chose. En période de confinement, je fais beaucoup de lapsus, je l'avoue, mais c'est une caresse. Comme ça, j'ai plusieurs mots possibles pour.
Et, ça nous restera comme la trace de l'époque dans laquelle on vit.
C'est marrant parce qu'il y a plein de poètes et on pourrait avoir des modes d'emploi, enfin des modes d'entrée différents, surtout à la scène. Bien entendu, des gens d'expression comme Verhaeghen ou Darras, des battleurs littéralement. Moi, je suis avec eux, je suis un battleur, je suis même un bretteur. On part devant, etc. Puis après, on se dit, ah ben, pour que ça passe, faut pas en faire trop. Mais on a commencé par déborder. Il y en a d'autres qui travaillent des choses plus profondes, plus intérieures, et ça peut pas se mélanger. J'ai toujours appris à essayer de distinguer les dictions. Hein, en fait, je suis un spécialiste de l'érudiction. Voilà. Je suis un grand érudict. Je travaille sur les dictions, j'ai plaisir à découvrir ce que possède en puissance un texte si on l'écoute bien, là pour la voix, etc. Probablement ce qui me guide, parce que c'est ça que je voulais dire, mais j'arrivais pas à le dire et puis je suis un peu compliqué dans ma tête, c'est qu'en fait, je veux régler des comptes. En fait, il m'arrive probablement d'être poussé dans ma vocation poétique, j'entends par là dire de la poésie en scène, à vouloir sauver le genre, parce que oh la vache, il y a beaucoup de comédiens et comédiennes qui l'enfoncent, quoi. Qui en font quelque chose, mais un tapis de tristesse, un tapis d'ennui absolument incroyable, sans parler des auteurs qui s'y mettent, etc. Et puis d'autres, tout le monde essaie d'émarger dans ce métier, bon Dieu, on essaie d'en tirer quelque chose, ou on peut devenir intermittent, bon, pourquoi pas, il n'y a pas de mal à ça, mais il y a des gens qui lisent des choses, mais ils sont foutus de lire un truc, et puis ils vous assomment ça pendant des soirées d'été, il faut se battre. Voilà ce qui me pousse, c'est pas seulement parce que j'allais vous parler de l'amour des grandes choses, puis de l'amour de la poésie, tout ce que vous voulez. C'est bien certain, mais il est certain que je suis un dresseur de tort aussi. Il faut se méfier, monsieur Amine. Hein, attention, parce que le gars, comme ça, il pourrait dire des belles choses, puis en fait, il est rempli d'un fond mauvais, d'un fond rancunier, d'un fond... Mais... Oh vous l'avez devant vous au micro, mais moi, j'aimerais pas le croiser dans la rue. Franchement, un gars comme ça, je vous dis, ah non, ça j'aimerais pas avoir affaire à lui. C'est le genre de type, on a envie de le faire taire. Franchement, quand il est sur ses idées, là, ah non, ça c'est pas beau ce qu'il vient de dire. Mais c'est pour ça que je vous connais, Amine, ça me revient, parce que vous m'avez fait rentrer dans un comité de lecture où on joue
tiens.
Comme ça, les redresseurs de tort, non?
Oui, justement.
Les accusateurs publics.
Justement, en fait, parlons de ce comité de lecture avec vous, vous connaissant moi je pense toujours là. L'infatigable lecteur, en fait. Vous lisez davantage que de le texte que je vous propose à lire. Et souvent, les retours que vous faites, surtout, il faut faire attention à ne pas s'arrêter aux formes dramatiques qui répandent un peu une forme de cahier des charges de l'époque, où les écritures s'accrochent à des modèles, à des canons. Oui. Vous défendez chez les auteurs de ce que d'autres perçoivent ou jugent comme des maladresses, des choix qui manquent de retenue ou de discipline d'écriture. Vous faites l'éloge de la forme inaccomplie, de la forme qui déborde, qui se met en bord de route, qui laisse passer le grand théâtre. Comme ça.
Probablement qu'en lisant toutes ces pièces, là, qu'on lit ensemble, on a différentes raisons d'être émus. En particulier, la première d'entre elles étant la réinvention et non pas la perfection dans un mode déjà connu et dans lequel on pourrait établir de nouvelles performances. Il est bien entendu qu'aujourd'hui, Il y a encore des gens pour le faire, mais disons, on n'écrit pas une pièce en 5 actes en disant scène 1, scène 2, scène 3. C'est plus tout à fait le... Mais il y a encore des gens pour le faire, ça nous réjouit. Déjà, ce procédé dans la forme, cette idée que une pièce de théâtre, rien n'est donné, c'est pas sûr qu'il y ait des personnages et qu'il y ait des scènes... Déjà ça, on peut dire que c'est quelque chose qui frappe la poésie dans sa nature même, dans son obligation. La poésie est la plus vieille écriture du monde, la plus vieille chose du monde, mais qui a pour obligation de se renouveler constamment, de renouveler ses forces, ses formes, et pas mal. Aujourd'hui, le roi du lapsus. Eh bien, ce qui nous surprend dans ces pièces qu'on découvre, c'est la même force poétique, si j'ose dire. Alors, ça ne va pas plus loin, parce que j'aime pas trop le théâtre poétique. Mais d'obligation de renouveler ses formes. C'est musclé comme travail, ça oblige sans doute beaucoup de préparation, beaucoup de recherche, et on voit effectivement de temps en temps des expériences qui ne sont pas tout à fait abouties, mais qui nous posent bien plus fort la question de leur devenir. Voilà. Puis après, ensemble, on est dans un comité de lecture, on se dit toutes ces pièces, combien d'entre elles se montreront, on est curieux, on est inquiet. En même temps, il y a bien là quelque chose qui se fait, qui se réalise, à quel on doit donner vie. C'est que toutes les pièces ne sont pas écrites pour faire un succès de théâtre et rester 6 mois à l'affiche. D'autres ont des vies éphémères, bien sûr, mais pas seulement épisodiques. Fragiles. Ouais, qui peuvent choisir, c'est là que c'est différent aujourd'hui, différents modes d'expression. C'est pas forcément une répétition de 2 mois. Ça peut être un travail beaucoup plus court. Il y a des tas de choses à accomplir avec ces écritures-là. Je regrette parfois que on n'arrive pas, c'est compliqué, hein, mais on n'arrive pas plus à les proposer aux écoles de théâtre qui sont si nombreuses aujourd'hui. Voilà.
Vous parlez tout à l'heure un peu des possibilités que la poésie permet, les ouvertures ou la surprise qui peut advenir, quelque chose qui enfin, la part de l'inattendu qu'il y a dans de la parole poétique peut apporter au spectacle. Parfois, vous allez au-delà, en fait, vous puisez aussi dans le travail de penseur, de philosophe. Je pense notamment à Jean-Christophe Bailly, qui théorise justement la possibilité, voire l'évidence du sens qui peut exister dans les espaces souvent ignorés, minorés. Des espaces en apparence un peu éteints, inaptes à produire du sens, et où justement il y a une infinité d'histoires, de récits essentiels à la vie des gens.
Bon, c'est d'abord de la sensibilité à l'écriture, qui se fait tout à fait mécaniquement, sachant que je suis comédien, loin d'être un intellectuel, j'en apprends quelque chose ces temps-ci. Je suis parti à la recherche de quelque chose. Je courais après le spectacle. On a fait beaucoup d'impro dedans. Voilà. Vous savez, dans l'enseignement de l'acteur, la question de l'animal est assez importante. La question totémique, de dire est-ce qu'on a au fond de soi un animal qu'on retrouve dans certains rôles, etc. Et la question basique ou un peu rapide, de dire qu'est-ce que c'est qu'une bête de scène ? Est-ce que c'est l'exhibition ou est-ce que c'est au contraire ce que dit Bailly, la capacité de passer dans l'invisible. L'animal est le seul à se cacher dans le visible, affirme-t-il après Héraclite. Hein, nature aime à se cacher. La nature se cache dans le visible. La capacité de mimétisme. Et la bête de scène, elle se cache hors de la profération, affirme-t-il, dans la cage de scène.
On a parlé un peu des poètes, après du philosophe, et d'autres grands compagnons qui sont des musiciens.
Oui.
La musique, sur votre autre grande affaire, vous avez des expériences avec beaucoup de musiciens, mais surtout, vous allez du côté de plus en plus, du côté du jazz. Je pense à Henri Texier, le travail que vous avez fait aussi avec Nain Viel ou d'autres.
Oui. Louis Clavis, beaucoup.
Absolument. Ouais. Il y a un chemin comme ça qui vous mène vers des gens qui font ce genre de musique.
Assembler des comédiens, j'ai essayé de le faire sur des partitions rapides. Je faisais des stages justement avec les pièces qu'on découvrait ensemble au comité de lecture, et je demandais à un groupe de 15 de dire on va travailler sur plusieurs pièces en même temps, et on doit arriver à la manière des gros orchestres de jazz. On va donner des extraits, mais à très vite aller dans le tempo de la pièce et essayer de la trouver. Je suis vachement content de l'avoir essayé, ces stages, les ateliers nomades, Nathalie Rizardo. Et en même temps, là, je suis un peu planté quelquefois, quoi. C'est-à-dire que on n'arrive pas à trouver ça sans entraînement. Il faudrait une école précédente, des acteurs qui apprennent très vite à jouer une pièce, puis la pièce d'à côté différemment, quoi. Beaucoup d'acteurs ou un processus lent. Pardon. Le sujet étant celui de s'assembler avec les musiciens. Si je fais une réponse courte, à un moment, ils m'ont rassuré en disant « T'inquiète pas, Jacques, toi, t'as un bon rythme. T'arrives toujours à faire quelque chose d'intéressant dans ce qu'on fait, mais nous, on fait quelque chose d'intéressant dans ce que tu fais. » Et il y a quelque chose de très amusant à marcher dans l'histoire avec toi. Voilà.
Vous avez joué aussi beaucoup de pièces de répertoire ou de grands auteurs. Et souvent, ça s'est fait avec des metteurs en scène qui ont des méthodes affirmées, qui ont une vraie identité dans leur travail. Est-ce qu'il y en a certains qui restent comme ça un peu pour vous, des références dans leur façon d'explorer le théâtre, justement, on parlait tout à l'heure des auteurs qui réinventent des formes.
Oui, ce serait bien qu'on parle, effectivement, toutes ces expériences vécues avec des metteurs en scène parfois très, très différents. L'an dernier, j'étais un peu avec Mohamed El Khatib, qui ne travaille pas du tout sur le texte écrit. Je me souviens du travail avec Arnaud Meunier, qu'on avait présenté au... Bon, bien sûr, j'ai eu la chance de travailler là cette année, et avec Rib et sur Rémi DeVos. Ces expériences de théâtre différentes, peut-être, constituent le grand plaisir de l'acteur, c'est de savoir qu'on peut changer de main. On peut être avec des gens différents. Pardon de mal répondre à cette question, mais on ne peut pas répondre à tout. Là, ces jours-ci, j'ai un souvenir effectivement du travail avec Jean-Pierre Vincent, parce qu'à la fois, il nous tenait au corps, il était beaucoup trop près des répliques et de l'intonation à donner, et en même temps, il est à la recherche d'une écoute, dire mais est-ce qu'on a bien écouté ce mot-là? Est-ce qu'on a bien écouté l'intention de cette phrase? Et tout d'un coup, ça se renverse parce qu'il continue à faire marcher son processus critique en disant « mais je me suis peut-être pas posé toutes les questions ». Il est extrêmement simple, il était extrêmement clair et lisible. Il préparait très bien, pas seulement sur papier, mais son corps même. Il arrivait en avance à la répétition. En disant, je déteste d'être pris de court et arriver en étant un petit peu... Excusez-moi les copains, j'avais des tas de trucs à faire, j'avais un rendez-vous. Bon, on y va. Ah non. Lui, il faut qu'il se mette devant le théâtre vide. Il s'asseyait devant la salle la scène, dans la salle de répétition. Et puis, il se projetait. Quand on arrivait, il était chargé, quoi. Il avait... Ça, c'était des moments formidables. Voilà, ces expériences avec les metteurs en scène sont absolument nécessaires. Je crois complètement à l'écriture du metteur en scène, je l'attends, je pense qu'elle est là, je pense qu'elle fait partie de nos plaisirs de spectateurs. Et par ailleurs, c'est vrai, j'ai plus souvent eu ces dernières années, comme un choix involontaire, mais plus souvent eu affaire à des répertoires contemporains. Hein, probablement, c'est sorti d'une espèce d'agacement sur ce qu'on avait tout autour de nous, parce que ça va, on peut monter Tchekhov une fois, deux fois, mais 20 fois, c'est déjà beaucoup, mais 40, ça me semble beaucoup, quoi. On en est à la 77e mouette, là, qui va être montée cette année. Courage, les copains, mais je suis pas sûr que dans le théâtre public, on soit seulement destiné à monter ces pièces magnifiques, ces pièces de répertoire, Fedot, Tchekhov, tout ce qu'on voudra, mais... Tout d'un coup, probablement par une espèce d'irritation bourrue, je disais, il faut défendre le théâtre contemporain, quoi. C'est les choses qui viennent de s'écrire.
Voilà une chose qui peut ravir des auteurs qu'on lit, et qu'on, pour la plupart qu'on connaît,
oui.
Et que parfois quand il y a des impasses ou des difficultés de faire aboutir des projets d'auteurs vivants, on revient toujours à... C'est plus un discours ignorant qui consiste, pour faire court, à dire... Oui, le répertoire, c'est un recours parce qu'on n'arrive pas à trouver d'auteur d'aujourd'hui qui peut être à la hauteur de ce répertoire. Et c'est un débat qui revient.
Le théâtre est probablement fait pour monter des vieux trucs. C'est comme ça qu'il nous apparaît dans nos états un peu comateux, un peu étranges, un peu mystérieux. Je dis oui, mais finalement, oui, c'est ça, le théâtre, c'est des... des vieux textes qui se réveillent et qui naissent. Donc parfois les obligations, une pièce nouvelle doit paraître un peu patinée, un peu ancienne. Il y avait des auteurs qui étaient très bons là-dedans. Je me demande si, d'une certaine manière, Pinget et Beckett n'étaient pas excellents dans ce domaine-là, de l'ancien dans le neuf, quoi. J'ai là sous les yeux Patrice Chéreau, un livre qu'on vient de m'envoyer, Dominique Guablanquet, qui fait un portrait de Chéreau. Chéreau, il ne s'empêche pas au départ de monter toutes sortes de classiques, des Marivaux. Aussi, il va chercher dans des pièces de répertoire, des pièces qu'on ne connaît pas, des pièces de Lenz, des pièces une pièce de Neruda, etc. Et il y a quand même, aujourd'hui, l'exploration du classique, un peu une ignorance de ce qu'a fait le voisin, enfin, un peu coupable, une ignorance un peu coupable des metteurs en scène qui montent les succès qui marchent, quoi. Je crois que c'est tout à fait nécessaire à un metteur en scène de régulièrement se frotter à cet exercice-là. De nouveau Jean-Pierre Vincent, mais le lendemain de l'annonce de sa mort, j'écoutais des bandes à la radio et je l'entendais défendre magnifiquement Georges Dandin. Et la précaution qu'il a pris, il dit, mais je ne pouvais pas monter cette pièce-là, puisque Planchon l'avait montée. Et Planchon l'avait montée, quoi, 20 ans avant. Et tout d'un coup, je me dis, je la lis, je dis, oh, mais j'ai des choses intéressantes à trouver. Alors, il explique très très bien ce qu'il va chercher pas fondamentalement, à la surface du texte, dans les mots même qui le réveillent en disant quelque chose n'a pas été dit clairement de cette pièce.
Je vois que vous avez entre les mains un texte de Gérard Allaire.
Alors là, ça, c'est un travail, j'invite les gens à aller écouter sur YouTube Brut de Poésie, parce que je fais, pas quotidiennement, tous les deux jours, je mets en ligne un poème contemporain que j'enregistre. Je le fais parce que j'aime bien les gens, mais surtout parce que moi, ça m'oblige à quelque chose de très difficile pour moi. C'est pas parce qu'on lit bien qu'on trouve, quoi. Je prends une phrase au hasard. D'ailleurs, je prends la page, qui est la page 20, à côté de la page 21. Sur la page 20, il est écrit « Mutter sprach ». Je sais que le chapitre s'appelle « Heimat », la terre natale. Une petite image noire sur laquelle il est écrit « Ô terre, toutes nos larmes, sans nous à la fin, reposant ensemble ici avec tout, comme si c'était l'éternité. Rien comme un visage, mais partout dehors, ce qui vient au bord des images et fidèlement ainsi fait revenir dans nous et résonner l'ancien murmure. » La question de Gérard Allaire, c'est d'où l'on vient? Comment peut-on disparaître et réapparaître ainsi? De l'origine de la vie, de l'origine de la succession du temps qui crée un natal, il arrive à partir de cette chaîne de la vie, cette chaîne de la reproduction, il parle de sa propre naissance dans la foulée, à donner une chose que seul le poète peut atteindre. Vision qui se cachent derrière les mots, derrière la force des mots, comment ils entrent en gravitation les uns avec les autres.
Merci Jacques Bonafé, et merci pour ce soleil malgré la grisaille. Et à bientôt.
Merci.
À bientôt pour de nouveaux rendez-vous. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à partager.